Bien, bonsoir à tous et bienvenue pour notre cours sur l'histoire de l'Église. Nous allons étudier ce soir l'Église sous la Révolution française, puis sous Napoléon et jusqu'à grand pape Saint Pie X. Voilà, nous avons quelques années à parcourir ensemble. Nous allons commencer par notre prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous, êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pierre, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors avant de commencer notre étude de ce soir, rappelez-vous que le mois dernier, nous avions contemplé l'histoire de l'Église sous la Révolution protestante, révolution qui est beaucoup plus qu'une révolution, disons, spirituelle, mais qui a vraiment touché la pensée, même une façon, un état d'esprit qui s'est inculqué ensuite et qui donne notre pensée moderne. Et cette pensée a été la source, vous vous souvenez, de tout le courant humaniste et tout le courant de cette incrédulité qui s'est installée au cours du XVIIIe siècle et qui justement a causé, entre autres, cette grande révolution, ce tournant, ce tremblement de terre, notamment en France, que nous appelons la Révolution française. Alors, voyons déjà les origines et les étapes de cette persécution religieuse, puisqu'il faut bien le dire, vous le savez, l'Église en France, et puis même, nous le verrons tout à l'heure, dans beaucoup d'autres pays en Europe, l'Église a été vraiment martyrisée durant ces années de révolution. On a dit que la Révolution française n'était pas un événement, mais plutôt une époque, tellement elle a insufflé un esprit, une manière de penser, une manière de faire qui va s'étendre sur plusieurs années. Et effectivement, ce qui s'est passé en quelques années a provoqué plus de changements justement quelques années que des événements passés lors de plusieurs siècles. Hein. C'est énorme tout le chamboulement que cela a provoqué. Elle a eu pour conducteur, vous voyez, beaucoup d'incapables, il faut le dire, et même des scélérats qui ont été un peu à la tête de cette révolution. Ces personnes justement aveuglées par leurs préjugés et leurs mauvaises passions, il faut bien le dire, se montrèrent tout de suite hostiles donc à la religion et marquèrent à tout jamais cette révolution, la marquèrent d'une blessure vraiment sanglante et hideuse. Alors, voyons justement quels sont les éléments majeurs qui ont déclenché cet événement dont notre République découle aujourd'hui. Louis XVI, donc, pour parer au désordre financier de l'époque, convoqua les États généraux, justement, en 1789. Et l'Assemblée se déclara presque aussitôt constituante et se mit donc activement à refondre un peu toutes les institutions qui existaient. Elle va donc s'emparer des biens de l'Église de France, vote la constitution civile du clergé, et va persécuter tous ceux qui refusaient de prêter ce serment. Dans la nuit du 4 août 1789, le clergé ainsi que la noblesse le clergé et la noblesse renoncèrent à tous leurs droits et privilèges féodaux. Et trois ans plus tard, le 11 août 92, le clergé décréta l'abandon de ses droits sur la dîme. Et puis le 2 novembre, la constituante déclara propriété de l'État tous les biens ecclésiastiques et les mit en vente sous le nom de biens nationaux. Tout cela est bien connu, mais il ne faut pas l'oublier. En compensation, l'État attribua aux membres du clergé le droit à une pension, si vous voulez, et c'est l'origine justement du budget des cultes qui va perdurer jusqu'en 1905. Et en 1905, lorsqu'il y aura la séparation des églises et de l'État, cette subvention va cesser, ce qui va évidemment procurer une véritable injustice, car cette subvention n'était qu'une maigre indemnité par rapport justement à tous les biens que l'État avait volés, avait confisqués lors de la Révolution. Alors voyons un petit peu ce qu'est cette constitution civile du clergé, puisque nous sommes dans l'histoire de l'Église, plus que l'histoire de France. Cette constitution, vous voyez, imposait donc au clergé de se soumettre à l'État, avant de se soumettre bien sûr au Saint-Père, ce qui évidemment créait un schisme. Donc le clergé qui avait renoncé sans trop de peine à ses biens et à ses privilèges, eh bien, lorsqu'on va toucher à sa foi, puisqu'il s'agit bien de cela, le clergé va résister. La constituante donc prétendit, si vous voulez, légiférer en matière religieuse de la même manière qu'elle légiférait la matière politique ou financière. Et donc elle appliqua à la discipline ecclésiastique le principe de la souveraineté populaire. La constitution civile du clergé, tout est dans le titre, donc votée en juillet 1790, était inspirée d'une pensée un peu janséniste et gallican, qui était hostile à la suprématie du pape, vous vous souvenez, et désireux d'installer en France une église nationale. Et donc, sans consulter le souverain pontife, sans consulter le pape, l'Assemblée décida que les 135 diocèses de France, c'était énorme, en constitueraient plus que 83, un par département. C'est la première chose. Ensuite, l'Assemblée décida que les évêques et les curés seraient nommés comme les autres fonctionnaires de l'État. On laïcise le choix du clergé, donc choisi par les électeurs, catholiques ou non d'ailleurs. Et puis, l'Assemblée décida aussi que les évêques se contenteraient de notifier leur élection au pape sans demander l'institution canonique. Voyez-vous cette séparation radicale avec l'autorité du Saint-Père. En novembre 1790, une autre loi prétendit obliger tous les membres du clergé à jurer fidélité à cette même constitution. Alors que va-t-il se passer? Est-ce que le clergé français va adhérer? Mais il faut savoir que, tout d'abord, il y a eu deux mouvements, si vous voulez. Comme premier mouvement, quatre évêques sur 135 et environ un tiers des prêtres prêtèrent le serment. La plupart, en fait, ne voyaient pas du tout le côté schismatique de cet acte-là, car le pape n'avait pas encore parlé au sujet de cette constitution. Mais en avril 91, donc voyez-vous, un peu moins d'un an après, Pie VI, donc le pape de l'époque, condamna cette constitution, et ce qui l'a poussé à condamner cette constitution, c'est que le pape voyait que le gouvernement se montrait de plus en plus hostile aux catholiques et hostile aussi aux prêtres, aux prêtres tout court de l'Église. Et donc, quand le pape Pie VI a condamné cette constitution, la plupart, pour ne pas dire presque tous, des prêtres assermentés qui avaient signé, mais la plupart se rétractèrent et devinrent donc justement des réfractaires. On va le voir dans quelques instants. Cette attitude justement du clergé français consola grandement le pape. Il avait repoussé la condamnation de cette constitution que par crainte en fait d'une apostasie générale du clergé français, comme un peu cela s'était passé sous Henri VIII en Angleterre, qui entraîna le schisme qui a formé l'Église d'Angleterre, l'anglicanisme. En France, eh bien, les prêtres ont suivi l'avis du pape, ce qui a été une grande consolation pour le Saint-Père. Donc après cette condamnation, beaucoup de prêtres rétractèrent leur signature, et les prêtres de France donc furent séparés en deux camps, si vous voulez, les prêtres assermentés, les jureurs, ou les prêtres constitutionnels, et d'un autre côté, les insermentés, qui reçurent le nom de réfractaires. Le clergé constitutionnel, ceux qui avaient signé cette constitution, qui suit donc l'État, eh bien, va commencer à s'organiser en France. Et Talleyrand, un des quatre évêques jureurs, sacra le premier évêque élu selon la Constitution. Donc, vous voyez, sans demander d'avis au pape. Bientôt, dans chaque département, il y aura donc des évêques constitutionnels, ainsi que dans chaque paroisse, il y aura des curés jureurs. Mais voyez-vous, presque tous les fidèles abandonnèrent les paroisses constitutionnelles, qui étaient restées fidèles à l'Assemblée, à la Constitution, en tout cas qui suivaient cette Constitution. Les fidèles, presque tous, abandonnèrent ces prêtres jureurs, soit par indifférence religieuse, il ne faut pas l'oublier, puisqu'il y avait tout cette un état d'esprit ambiant d'athéisme qui commençait à pénétrer même le peuple, si je puis dire. Mais beaucoup aussi abandonnèrent les curés jureurs pour secourir clandestinement les prêtres insermentés. Alors voilà que va commencer la persécution religieuse, puisque les prêtres réfractaires, d'abord, vont être privés de leur poste, privés de leur traitement, et donc se virent exilés, emprisonnés, déportés, même de l'autre côté de l'Atlantique, ou alors exécutés quand ils restaient sur le territoire. Les massacres de septembre en 1792 à Paris, hein, principalement dans la prison des Carmes, et puis dans quelques autres villes, en fait, ouvrirent la persécution sanglante du clergé, mais aussi, vous le savez, de fidèles qui vont se lever contre cette révolution. Alors justement, dès le début de ce massacre, ou si vous voulez, l'accroissement de cette persécution, va commencer l'émigration. Hein, une centaine d'évêques et environ 40 000 prêtres quittèrent la France et se réfugièrent en Angleterre, en Espagne, en Suisse, en Italie et en Allemagne aussi. Dans ces différents pays qui vont les accueillir, vraiment, ces prêtres vont se montrer exemplaires et préparer dans la souffrance la rénovation catholique qui succédera à la Révolution en France. On le verra tout à l'heure lors du 19e siècle. Mais tous les prêtres, bien sûr, ne sont pas partis en exil. 10 000 prêtres environ et 15 évêques réfractaires restèrent en France. Autour d'eux se regroupèrent donc les vrais fidèles, fidèles au Saint-Père, fidèles à l'Église catholique, ces fidèles qui abandonnaient en fait petit à petit tous les prêtres constitutionnels, puisque ces derniers vivaient mal et plusieurs même, vous voyez, avaient apostasié et même se mariaient. Bon, petit à petit, cette révolution devint extrêmement violente. Et les églises furent détruites, des villages entiers comme les Lucs sur Boulogne incendiés, le peuple tué, massacré, etc., etc. Au calendrier chrétien, on substitua le calendrier républicain. Et en novembre 1793, commencèrent les mascarades sacrilèges du culte de la raison. On remplace Dieu par ce culte de la raison, et l'athéisme s'affichait ainsi brutalement dans une société qui était profondément chrétienne quelques années auparavant. Il faut vraiment prendre conscience du traumatisme que cette révolution a provoqué dans la société française. Pendant ce temps, le culte catholique restait interdit sous peine de mort et il se pratiquait cependant en secret, au fond des bois, dans les granges isolées. L'Église de France revenait ainsi, vous voyez, au régime des catacombes, et les prêtres réfractaires déguisés sous différents métiers, sous les costumes les plus divers, continuèrent au péril de leur vie à sauver les âmes de la France. Par l'exercice de leurs saints ministères, ils ont tous été édifiants. Beaucoup furent exilés, déportés, et tués parce que trouvés en train justement d'exercer leur ministère. Il ne faut pas oublier non plus ces régions françaises comme la Vendée, le nord du Poitou, bien sûr à Lyon aussi, où les fidèles se sont levés pour défendre leur foi. La révolte des Vendéens prouvait vraiment l'attachement du peuple français attaché à sa foi catholique. Il faut ici nommer Saint Louis-Marie Grignon-Montfort qui, quelques années auparavant, avait christianisé, re-christianisé, si vous voulez, toute cette partie du Poitou et de la Vendée, et on explique ce soulèvement justement en raison de tout le ministère de Saint Louis-Marie Grignon-Montfort quelques années auparavant. Mais voilà que le 27 juillet 1794, Robespierre est tué. La chute de Robespierre va donc amener la fin de la terreur et l'ouverture des prisons. Mais attention, ça ne veut pas dire que la persécution religieuse cessa d'un coup, elle va continuer, mais plus ou moins violemment, jusqu'au Concordat de 1801. Au début de 1795, la liberté des cultes, accordée d'abord en Vendée, s'étendit petit à petit à tout le pays. Après le fameux coup d'État du 9 novembre 1799, le 18 Brumaire, bien connu, Bonaparte va être placé à la tête du gouvernement avec le titre de premier consul. Et c'est grâce, on peut le dire, à ce coup d'État que le pays commença à respirer, si je puis dire. Les prêtres émigrés commencèrent à revenir en France, les églises rouvraient, on entendait de nouveau les cloches dans nos villes et nos campagnes, on exigea du clergé qu'une promesse de fidélité à la nouvelle constitution. Alors juste avant de clôturer ce chapitre sur cette révolution française, on ne peut pas trop s'étendre malheureusement, pourtant il y aurait énormément de choses à dire par rapport voilà, la fidélité du peuple chrétien à la foi chrétienne par rapport au courage héroïque du clergé français. Il faut nommer quelques martyrs. La Révolution a fait des milliers de victimes, bien évidemment, mais on ne peut considérer comme martyrs que ceux qui sont morts, qui ont été tués en haine de la foi. Hein, beaucoup ont été tués pour des raisons, on peut dire, plutôt politiques, mais d'autres, bien sûr, en haine de la foi, puisque les choses étaient un peu liées. L'Église, aujourd'hui, a déjà béatifié de nombreuses personnes, par exemple les 16 carmélites de Compiègne, hein, dont Bernanos a écrit la fameuse pièce de théâtre, le dialogue des carmélites, qui représente vraiment toute l'ambiance de l'époque et l'héroïsme de ces carmélites de Compiègne, justement. L'Église a aussi béatifié les 32 religieuses d'Orange, aussi bien sûr le fameux Noël Pinault, prêtre d'Angers, qui monta sur l'échafaud vêtu de ses habits pour célébrer la messe, et il va monter sur l'échafaud en prononçant les premiers mots hein, de la messe In Truibo ad Altari Dei, je m'avancerai vers l'autel de Dieu. Il faut aussi ajouter les 191 martyrs des massacres de septembre, donc en 1792, à Paris et dans d'autres villes. Alors, voilà la Révolution française. N'oublions pas que cette révolution a eu des conséquences néfastes, bien sûr, a eu des contre-coups dans toute l'Europe, même en Asie, notamment, vous voyez, dans les missions catholiques dont on parlait le mois dernier, ces missions entretenues par la France. Eh bien, l'esprit de la Révolution va pénétrer ces missions et va donc entraîner la ruine de ces dernières. Mais la Révolution va surtout pénétrer dans l'armée française, et là où l'armée allait justement agissait, eh bien, la Révolution étendit son œuvre dans tous ces pays en entraînant justement la destruction religieuse. Par exemple, en Belgique et dans les territoires de la rive gauche du Rhin, réunis à la France en 1795. La constitution civile du clergé avait été appliquée, et donc les couvents furent fermés, et les biens des églises confisqués, les insoumis à ces lois impies étaient déportés. Et dans les républiques successivement établies, donc de 95 à 99, par exemple en Hollande, en Suisse, à Milan, à Rome, à Naples, on imposa aussi les serments révolutionnaires, on bannit de nombreux prêtres, on pilla les églises. Quant au pape, il ne faut pas l'oublier bien sûr, le Saint-Père Pie VI, ayant refusé de retirer sa condamnation au sujet de la constitution civile du clergé, il vit ses états envahis, hein, puis il subit la déportation à Valence, en Dauphiné, où il mourut en 1799. Oui, même le Saint-Père a subi, bien sûr, les outrages de cette révolution française. Le collège des cardinaux était donc dispersé loin de Rome, la chrétienté se trouvait sans capitale et sans chef. Mais voyez-vous, on voit le doigt de Dieu en permanence dans l'histoire de l'Église, la Providence veille. Parce que les armées de la Révolution, ayant été chassées de l'Italie, 34 cardinaux purent se réunir à Venise, se réunir en conclave, pour élire l'un d'entre eux qui prit le nom de Pie VII. Nous sommes en 1800. Le nouveau pontife entra triomphalement dans Rome, et c'est à lui que revint la difficile mission de réconcilier l'Église catholique avec la société civile issue de la Révolution. Que ce soit en France, vous l'avez compris, mais aussi dans beaucoup d'autres pays. Et c'est là où on voit que la fille aînée de l'Église, qui a christianisé de nombreux pays, on voit que son influence a aussi été dans les pires choses, en amenant l'esprit de la Révolution dans ces pays qu'elle avait autrefois christianisés. Alors, il nous faut bien sûr parler d'un personnage important qui aura des conséquences dans l'histoire de l'Église, Napoléon Bonaparte. Bonaparte avait bien compris que la France ne pouvait recouvrer une paix véritable que si le gouvernement se réconcilier avec l'Église. Ça, il l'avait parfaitement compris. L'entourage du premier concile, du premier consul, pardon, était dans sa grande majorité impie et même athée, mais la France restait pourtant profondément attachée à la religion catholique et désirait que cette religion, que le catholicisme, redevint religion du pays. Et donc Bonaparte résolut de se rapprocher de l'Église pour deux raisons majeures. La première, c'est qu'il était convaincu de la nécessité d'une religion pour sauvegarder la morale publique. Et la deuxième raison, c'est qu'il voulait placer le clergé sous sa propre influence. Il voulait vraiment que le clergé soit sous sa dépendance. Voilà pourquoi il engagea avec le souverain pontife, Pie VII, des négociations qui aboutirent au fameux Concordat de 1801. Ce traité proclamait le catholicisme comme la religion non pas de la France, mais religion de la majorité des Français, et spécialement des consuls. Le premier consul, donc Bonaparte, dans le Concordat, c'était prévu que le premier consul nommait les évêques et que le pape, s'il les agréait, leur donnait l'institution canonique. Le clergé, lui, renonçait à ses biens qui avaient été confisqués lors de la Révolution, vendus lors de cette même Révolution, mais le gouvernement restituait les églises, s'engageait à lui servir un traitement de compensation, évidemment, et assurait aussi la liberté de toutes les fondations nouvelles. Donc vous voyez, un concordat qui essayait d'unir un peu les différentes volontés, volonté de l'Église et volonté de l'État, après ce traumatisme qui a été la Révolution. Autre chose dans le Concordat, en dehors des dimanches déclarés déjà fériés, un bref pontifical de 1802 réduisait à 4, pour la France, réduisait à 4 les fêtes d'obligation, hein, donc que nous avons aujourd'hui, Noël, bien sûr, l'Ascension, l'Assomption, le 15 août, et la fête de la Toussaint. Ça date donc de ce bref pontifical de 1802. Ce concordat est resté en vigueur jusqu'à la séparation des Églises et de l'État en 1905. Mais voyez-vous, on pourrait estimer que ce concordat plut aux catholiques en France, puisque de nouveau ils pouvaient assister à la messe, de nouveau les prêtres étaient payés, secourus, aidés par l'État. Mais pourtant de violentes oppositions s'élevèrent contre ce concordat. De la part tout d'abord des royalistes, qui étaient furieux de voir le pape traiter avec un pouvoir qu'il regardait comme illégitime, ce pouvoir qu'on appelle qui sortait de la Révolution. D'autres aussi étaient opposés au concordat, opposés aux royalistes, les Jacobins, irrités du rétablissement de la religion en France. Et d'autres encore, les Gallicans, qui étaient mécontents de l'autorité reconnue au pape, donc qui avait de l'influence, qui reprenait de l'influence en France. Et de fait, Bonaparte demandait une chose inouïe dans l'histoire de l'Église. Il a demandé au Saint-Père de déposer tous les évêques, puisque vous savez que c'était un petit peu le désordre. Il y avait les évêques constitutionnels et quelques évêques réfractaires. Et donc Napoléon, pour faire un peu la paix dans ce désordre, demanda au Saint-Père de déposer tous les évêques et de modifier toutes les circonscriptions ecclésiastiques de la France. Et donc Bonaparte, par cette action, va en fait reconnaître la primauté de juridiction du pape sur toute l'Église. Et donc ça va justement mettre... Ça, on va abandonner toutes les théories gallicanes et josephistes, d'ailleurs. Le concordat avait été imité dans d'autres pays, et ces autres États, justement, vont aussi demander au pape de prendre le pouvoir, enfin prendre le pouvoir au niveau de l'Église locale. On va, vous voyez, arriver à une sorte de centralisation de l'Église. Et le pouvoir suprême du pape sera attesté donc par les catholiques du monde entier. Ce qui était déjà le cas, si vous voulez. Mais là, ce sera beaucoup plus défini et clair pour justement tous ces États qui vont se soumettre de façon plus claire au Saint-Père. Beaucoup d'évêques réfractaires étaient d'ardents royalistes, hein, et des gallicans convaincus. C'est pour ça qu'ils vont refuser au départ d'être déposés par le Saint-Père. Lorsque le pape leur demanda de démissionner, 36 sur 82 refusèrent. Alors Pie VII, usant de son autorité, supprima tous les diocèses de l'ancienne France, et c'est pour cela que les évêques perdirent leur juridiction. Tous les anciens évêques perdaient donc leur pouvoir. Et c'est pour cela que les uns après les autres vont se soumettre aux décisions du Saint-Père. Deux évêques seulement s'obstinèrent dans leur choix et fondèrent une église schismatique, anticoncordataire, qu'on appelle la Petite Église, justement. Il existe encore quelques membres au nord des Deux-Sèvres et au nord de Lyon, peut-être ailleurs aussi, je crois, mais quelques fidèles qui sont sans prêtre aujourd'hui. Mais cette petite église vient donc de ce refus d'obéir au Saint-Père qui voulait justement renommer des nouveaux évêques après le désordre de la Révolution. Bonaparte, je reviens sur ce fameux concordat, Bonaparte va ajouter, vous le savez sûrement, va ajouter sans l'assentiment du pape, Bonaparte ajouta les articles organiques qui, en fait, restreignaient la liberté de l'Église et rétablissaient l'ancien gallicanisme. L'application du concordat va donc se trouver faussée et toute la politique religieuse qui était prévue par le pape Pie VII sera... si vous voulez, abîmé, tronqué, trompé même. Et pourtant, l'épiscopat se tourna de plus en plus vers Rome, justement en prenant un peu plus de liberté par rapport au concordat. Et c'est pour ça que ces articles organiques, en fait, n'auront pas trop de mauvaises influences, alors que Napoléon voulait justement prendre sous son pouvoir tous ses évêques, mais les évêques par eux-mêmes vont se tourner vers le Saint-Père. À peine proclamé empereur, Napoléon songea de nouveau, par une autre manière, à se rapprocher de la religion, malgré les préjugés de son entourage. Et afin de donner plus de solennité à son couronnement, vous le savez, il voulut se faire sacrer par le Saint-Père. Ce projet embarrassa vraiment Pie VII, mais c'était difficile de résister, puisque l'empereur, en rétablissant en France le culte public, avait mérité en fait une certaine reconnaissance de l'Église. C'est pour ça que le pape céda et se déplaça et vint à Notre-Dame de Paris pour couronner Napoléon le 2 décembre 1804. Il est à noter qu'il traversa la France et tout le peuple était à genoux devant le Saint-Père. Il faut imaginer la France qui sort de la Révolution et voilà que le Saint-Père, le successeur de Saint-Pierre, marche sur cette terre qui est encore tout imprégnée du sang des martyrs tombés pour Dieu et pour le roi. Pourtant, vous voyez, après ce couronnement, l'empereur se regardait comme une sorte de nouveau Charlemagne, couronné par le pape, mais il prétendait traiter le pape un peu comme un vassal. Et Pie VII ne va pas se laisser avoir, et devant sa résistance, Bonaparte ne va pas non plus se laisser faire et occupa les états pontificaux. Vous savez que le pape avait plusieurs états en sa possession, il avait un pouvoir spirituel mais aussi un pouvoir temporel sur ces états. Et Bonaparte occupa donc ces états pontificaux, et à cet acte de violence, le pape répondit par une sentence d'excommunication. Et donc Napoléon le fit arrêter et l'enferma à Savone. Nous sommes en 1809, où le pape sera séparé de tous ses conseillers. Voyons, Napoléon n'a peur de rien, il enferma le Saint-Père. En plus de cela, il faut ajouter le fameux divorce de Napoléon. Vous savez qu'il était marié avec Joséphine et que Joséphine n'a pas pu lui donner d'enfant. Il va donc demander le divorce. Il demandera à l'officialité de Paris de prononcer cette nullité, la reconnaissance de nullité du mariage avec Joséphine. Et le pape protesta contre cette sentence, car les causes matrimoniales étaient réservées au Saint-Père. En conséquence, 13 cardinaux sur 27 refusèrent d'assister à la cérémonie religieuse du second mariage de Napoléon avec Marie-Louise, fille de l'empereur d'Autriche. De ce second mariage, il eut donc un enfant qui reçut le titre usurpé et si éphémère de roi de Rome, en mars 1811. Napoléon continua ses vexations envers l'Église, envers le pape, et en 1811, il y eut un concile à Paris. Et Napoléon trouva insuffisantes les concessions du pape faites au concordat. Il voulut donc tenir le pape sous sa main pour l'amener plus facilement à accepter toutes ses prétentions. On voit que Napoléon cherche de plus en plus à prendre possession l'Église en France. Et c'est pour cela qu'il fit transporter secrètement le pape de Savone à Fontainebleau, le 19 juin 1812, et là commence justement le fameux séjour du pape Pie VII au château de Fontainebleau. Après la désastreuse campagne de Russie, regardée par beaucoup comme un châtiment, Napoléon changea de tactique, et en janvier 1813, il vint donc à Fontainebleau rencontrer le pape pour traiter lui-même avec le souverain pontife et réussit à lui arracher la signature d'un nouveau concordat, mais attention, ce nouveau concordat n'était qu'un projet. Hein. Ce nouveau concordat confirmait le mode d'investiture qui était beaucoup plus, si vous voulez, qui donnait beaucoup plus d'autorité à l'empereur, et ce nouveau concordat demandait au pape de renoncer à son pouvoir temporel. Mais ce n'était qu'un projet, vous l'avez compris, c'est pour ça que Pie VII, après avoir été bien conseillé, retira sa signature. Or, Napoléon, eh bien, tint secrète la rétractation du pape et publia comme définitif, justement, le projet du concordat de Fontainebleau qui diminuait fortement le pouvoir du Saint-Père. Et l'empereur nomma des évêques aux évêchés vacants. Mais bientôt, les armées impériales furent battues, la France envahie, et donc pour regagner l'affection des catholiques, parce que il ne faut pas oublier que le peuple français est catholique et que le peuple commençait à regarder de travers ce nouvel empereur, en raison justement des vexations qu'il faisait au pape, eh bien, pour retrouver l'affection des Français, Napoléon ordonna de laisser retourner le pape à Rome, où il rentra en triomphe, le 24 mai 1814. Pendant ce temps, et il faut noter l'humour de Dieu pour ceux qui ont confiance en lui, regardez Napoléon qui signait son abdication dans ce même château de Fontainebleau où il avait voulu obliger le pape à renoncer à son pouvoir temporel. Voilà la balance qui change de camp. Napoléon donc va abdiquer dans ce même palais. Après les 100 jours et le désastre de Waterloo en 1815, vous savez que Napoléon va être exilé sur l'île de Sainte-Hélène et la famille de Napoléon va être abandonnée, et bien c'est Pie VII qui a accueilli généreusement à Rome la famille de l'empereur. Seul parmi les souverains, il sollicita quelques adoucissements au sort du captif de Sainte-Hélène et le pape va lui envoyer un prêtre pour l'aider à mourir en chrétien, et Napoléon donc mourra en 1821 muni des sacrements de l'Église. Alors après toute cette période qui fut secouée par tous ces événements, voyons un petit peu les différents papes et aussi l'Italie depuis la Révolution. Il y eut après Pie VII Léon XII, Pie VIII et Grégoire XVI, qui eut à lutter pendant presque tout son règne contre un esprit de révolution qui grondait dans ses états. Il dut accepter, contre cette révolution, il dut accepter l'intervention armée de l'Autriche et de la France pour défendre ses propres états. Après Grégoire XVI, arriva Pie IX, justement, qui va faire quelques concessions avec les libéraux italiens. Il accorda une amnistie générale et promit justement à ces révolutionnaires une constitution. Et donc dès lors, les révolutionnaires essayèrent de le compromettre par des manifestations populaires en criant vive Pie IX, abat les jésuites, puisque Pie IX, le pape, était considéré comme le libérateur de l'Italie. Vous savez que les révolutionnaires voulaient unifier l'Italie, qui était composée de nombreuses principautés, de nombreux royaumes. Le pape était donc considéré comme celui qui allait libérer l'Italie, à l'opposé, justement, des jésuites. Les révolutionnaires voulaient réaliser donc, cette unité en supprimant les différents royaumes et voulaient aussi l'expulsion des Autrichiens qui étaient maîtres de la Lombardie et de la Vénétie. Ces mêmes révolutionnaires rêvaient de placer Pie IX à la tête d'une république qui aurait embrassé tout le pays, toute la péninsule. Et excités par la Révolution française de 1848, ils voulurent obliger le pape à se déclarer ouvertement, justement pour l'unification de l'Italie et contre l'Autriche. Mais le pape refusa de déclarer la guerre à l'Autriche, et donc aussitôt, les révolutionnaires se retournèrent contre le pape. Ils assassinèrent le ministre du Saint-Père, Rossi, en novembre 1848. Les révolutionnaires s'emparèrent de Rome et proclamèrent la République. Pie IX dut s'enfuir à Gaétan, en Italie. Mais, voyez-vous, la France reprit Rome aux révolutionnaires, justement pour protéger le pape, et rétablit le Saint-Père dans ses états, donc 2 ans après sa fuite. Vaincus dans les états de l'Église, les révolutionnaires ne vont pas se laisser abattre, ils vont s'allier secrètement au ministre de Victor Emmanuel, le roi du Piémont, et le Piémont, soutenu par Napoléon III, malheureusement, va triompher contre l'Autriche et va envahir la Lombardie. Bon, il y a différents épisodes, hein, Victor Emmanuel, en fait, va envahir les états du pape, celui de Garibaldi, qui va annexer aussi le Piémont. Et donc, on voit le pape qui est cerné de tous côtés par ses ennemis qui sont en train de réduire le pouvoir temporel du souverain pontife. C'est là que Pie IX, c'est intéressant, chargea un prélat belge, Monseigneur de Mérode, ancien officier, il va le charger d'organiser un corps de zouaves pontificaux. C'est une armée, une petite armée, composée de volontaires français, belges, canadiens, autrichiens, bavarois, irlandais, etc. Et ce petit corps d'armée accourut auprès du pape pour lui offrir ses services. Et le pape confia cette petite armée au général Lamoricière. Le Piémont, donc, qui commençait justement à... le pouvoir du Piémont, qui avait envahi les états de l'Église, va demander au pape de licencier cette petite armée. Évidemment, le pape refusa, et donc les révolutionnaires, avec 50 000 hommes, vont s'attaquer aux zouaves pontificaux, qui eux étaient 4 000. C'est la fameuse bataille de Castelfidardo, près de Lorette. Évidemment, les zouaves pontificaux furent vaincus par le nombre. Il s'enferma, ces zouaves s'enferma dans Ancône, où il ne capitula qu'après une héroïque résistance en 1860. Ces zouaves pontificaux, évidemment, sont célèbres de par leur héroïcité, il ne faut pas les oublier. Ils auront un rôle important aussi en 1870-71 avec le général de Saunis. Donc les Marches et l'Ombrie occupées puis annexées par le Piémont, le pape ne conservait donc plus que le patrimoine de Saint-Pierre, c'est-à-dire Rome, hein, et le territoire de Rome. Il eût même tout perdu si la France si la France ne l'avait pas aidé à garder une partie de ce territoire. Mais en 1867, Garibaldi, soutenu par le Piémont, envahit le petit état pontifical. Une division française venue renforcer la petite troupe du pape battit Garibaldi à Montana. Mais en raison de la guerre de 70 qui se déclara en France, cette petite armée française dut quitter le Saint-Père et Garibaldi en profita pour justement s'emparer, plutôt Victor Emmanuel en profita pour s'emparer de la ville éternelle et en fit sa capitale. Hein. Voyons, on restreint petit à petit les états du pape et Pie IX a dû se confiner, si vous voulez, dans cette petite possession qu'on appelle aujourd'hui le Vatican, et il protesta haut et fort contre la spoliation dont il était victime. Parmi les présidents dans le monde, seul Garcia Moreno, président de l'Équateur, hein, très connu, lui joignit sa protestation à celle du pape. Pour éviter de paraître accepter cette spoliation, le pape refusa tous les privilèges que voulait lui accorder le Parlement italien. Il refusa même l'aide financière et il est vécu grâce aux aumônes de la catholicité, grâce au denier de Saint-Pierre, fondé en 1860 pour justement récolter des fonds dans le monde entier pour aider le Saint-Père à survivre. Il se réfugia donc dans le Vatican, seul coin du monde où subsistait son pouvoir temporel. Et les trois premiers successeurs de Pie IX, à la suite, agirent de même, et la fameuse question romaine, qui oppose donc le pouvoir temporel du pape et le pouvoir politique italien, cette question demeura ouverte. Il y a d'un côté donc une première souveraineté qui est légitime et universelle, celle du pape, et de l'autre, une souveraineté nationale et d'origine révolutionnaire. Alors ce grand pape, qui est Pie IX, n'est pas moins célèbre aussi par justement son activité doctrinale. Il promulgua la bulle Quanta Cura et le Syllabus contre les erreurs modernes qui commençaient à pénétrer l'Église en 1864. Il réunit le Concile du Vatican, le premier concile au Vatican en 1869, et ces dernières années furent attristées par la persécution de l'Église en Allemagne et aussi par l'anticléricalisme en Italie. Mais c'est surtout le pape, il ne faut pas l'oublier, c'est le pape qui proclama le dogme de l'Immaculée Conception en 1854. Alors, arrêtons-nous quelques instants sur cet événement historique dans l'Église. Sachez que l'Église a toujours cru, en tout cas pour un grand nombre de théologiens, que la Sainte Vierge était née donc sans le péché originel. L'Église manifesta cette croyance à travers sa liturgie, même un des papes au XVe siècle avait promulgué une des oraisons de la fête, ou plutôt de la messe de l'Immaculée Conception qu'on fêtait le 8 décembre. Mais au XIXe siècle, de multiples demandes affluèrent à Rome pour justement demander que cette dévotion devint un dogme révélé. Et avant de répondre à ses désirs, le pape Pie IX voulut connaître le sentiment de l'univers catholique. Et donc il consulta tous les évêques de l'Église, et partout, en fait, on croyait à l'Immaculée Conception de Marie. Alors, comblant le désir des fidèles, le 8 décembre 1854, le pape, en présence de 200 évêques qui accourut de toutes les contrées du monde, proclama solennellement le dogme de l'Immaculée Conception de la Très Sainte Vierge. La proclamation de cette vérité de foi, il faut le noter, ne fut suivie d'aucun schisme. Toute l'Église était d'accord, aucun catholique, aucune partie de l'Église ne refusa ce dogme. Comme quoi Notre-Dame vient unifier et continue à unifier la chrétienté. Et pour montrer que le ciel était d'accord, pour montrer combien elle tenait pour agréable cette proclamation, Notre-Dame apparaît, vous le savez, 4 ans plus tard, en 1858, dans ce petit village de Lourdes à Sainte-Bernadette, où elle va se déclarer justement « Je suis l'Immaculée Conception ». C'est une belle réponse du ciel à ce dogme promulgué de façon infaillible, donc par le pape. Pie IX, c'est aussi, on l'a dit tout à l'heure, le pape qui lança le premier concile du Vatican, qui est le 20e concile œcuménique. Il s'ouvrit le 8 décembre 1869, dans la basilique Saint-Pierre du Vatican à Rome. On y compta jusqu'à 743 prélats venus de tous les coins du globe, ce qui est énorme. Et ils vont commencer à exposer la doctrine catholique sur Dieu, sur l'homme, sur la création, sur les vérités révélées. Et après cela, le concile frappa d'anathème les erreurs du naturalisme contemporain qui commençait à prendre beaucoup de place. Puis il définit aussi le fameux dogme de l'infaillibilité pontificale. Le pape est infaillible toutes les fois qu'il parle ex cathedra, c'est-à-dire en vertu de sa suprême autorité apostolique. Le pape, en tant qu'il parle, en tant que successeur de Saint-Pierre, dans le domaine de la foi et des mœurs, est infaillible. C'est donc le fait que le pape soit infaillible dans ce cas-là, très précis, c'est une vérité de foi définie donc lors de ce fameux concile du Vatican. Environ, il faut le dire, un quart des pères du concile se montraient opposés à la définition de l'infaillibilité, en raison justement des circonstances de l'époque. Et au vote final, ils se retirèrent, mais tous, en fait, se soumirent ensuite. À part, il faut le noter, les vieux catholiques, on les appelle comme ça, qui refusaient ce nouveau dogme. Hein. Le pape Pie IX mourut donc en 1878, après 32 ans de pontificat, le plus long de l'histoire après celui de Saint-Pierre. Même Saint-Jean-Paul II ne l'a pas dépassé. Alors pour finir, il nous faut parler de deux grands papes, évidemment, qui ont suivi. Léon XIII, tout d'abord, 1878-1903. Léon XIII, lui, sans renoncer aux grands principes, bien sûr, de la religion chrétienne, Léon XIII s'efforça de réconcilier la société moderne avec l'Église, puisque on voit une société, si vous voulez, civile, qui s'éloigne de plus en plus des principes de la religion. Et Léon XIII va essayer de réconcilier les deux. Et pour cet effet, il publia de nombreuses encycliques où il traitait magistralement tous les graves problèmes contemporains. L'encyclique, par exemple, Eterni Patris, en 1879, rappelle que l'Église a toujours reconnu les droits de la raison, si vous voulez, qu'en fait, qu'on puisse utiliser notre intelligence pour pouvoir pénétrer les mystères de Dieu. Et il rappelle que le thomisme, donc toute la doctrine de saint Thomas d'Aquin, n'était que l'alliance étroite entre la religion révélée et la philosophie rationnelle. Pour montrer que la religion n'a rien à craindre de la vraie science, Léon XIII ouvrit aux historiens les archives du Vatican en 1881. C'est intéressant, voilà, vous pouvez venir voir, l'Église n'a rien à cacher, au contraire. Ensuite, afin de réfuter les accusations portées contre l'Église d'empiéter sur les droits de l'État et d'être opposé à la démocratie, il publia diverses encycliques, où il proclamait la souveraineté absolue du pouvoir civil dans son domaine propre. Hein. Il proclame aussi, il parle aussi les droits et les devoirs de l'État chrétien et son accord avec l'Église. Il parle aussi des caractères de la vraie liberté, les devoirs civiques du chrétien, les droits et les devoirs de la démocratie, etc. Hein. En même temps, il multipliait les avances au pouvoir civil et conseillait aux catholiques français il conseillait le ralliement à la République afin justement d'apporter cet ADN chrétien catholique à la République, ce qui n'a pas été une mince affaire dans ce pays dont une partie était encore profondément royaliste. À la juste accusation portée à l'Église d'être indifférente aux masses ouvrières, eh bien Léon XIII répond à cette insulte, répond en 1891 à l'immortelle encyclique, il va répondre par l'immortelle encyclique Rerum Novarum sur la grande question sociale. Je vous la résume en trois petits points. Trois puissances doivent collaborer à la réforme sociale, l'Église d'un côté, l'État et le travail organisé. L'Église, en rappelant à tous l'observation de la justice et de la charité, l'État en maintenant la paix sociale, en défendant les faibles contre les abus de la force, et enfin, la troisième puissance, c'est le travail organisé, en réalisant autant que possible une entente directe entre employeurs, employés, entre le patron et les ouvriers. Il rappelle des points très concrets, notamment au patron. Il rappelle qu'il ne commande pas à des machines, mais bien à des êtres humains. Ceux-ci ont droit à sa justice, à sa charité, à son respect. Il rappelle aux ouvriers qu'ils doivent être fidèles à leurs devoirs, à leur engagement, etc. Il montra aussi beaucoup de sollicitude aux grandes missions en créant 150 archevêchés et 105 vicariats ou préfectures apostoliques. Il propagea la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus en prescrivant la consécration annuelle du genre humain au Sacré-Cœur de Jésus. C'est lui aussi qui consacre